Bonjour et bienvenue sur CNews, une nouvelle édition de 90 minutes info à suivre. Ce sera juste après le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
Les salariés de Total Energy, pas prêts à arrêter les raffineries du groupe. Information de la CGT, avant l'arrêt éventuel, l'organisation syndicale dit vouloir tester des grèves reconductibles. Elle appelle les raffineries à un mouvement de grève contre la réforme des retraites les 7 et 8 février prochains. Go Sport France, placé en redressement judiciaire 2 semaines après sa maison mère. Le tribunal de commerce de Grenoble a rendu son verdict. Une insuffisance d'actifs de 158 millions d'euros a été constatée. Les magasins Go Sport sont désormais en quête d'un repreneur. Et puis troisième jour de visite en République démocratique du Congo pour le pape François. Le souverain pontife est auprès de jeunes Congolais aujourd'hui. Il les invite à être acteurs de leur pays, gangrénés par le chômage et la violence. Plus de 65 000 personnes l'ont accueilli dans le grand stade de Kinshasa ce jeudi.
Et au sommaire du jour, un suspect connu des services de police et au lourd passé judiciaire. Un homme est donc passé aux aveux concernant la disparition de Siem, âgé de 18 ans. La découverte d'un corps correspondant au signalement de la jeune fille laisse donc peu de place au doute désormais.
Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité.
Dans l'émission, nous parlerons aussi de la pénibilité et des angles morts de la réforme des retraites pour certaines professions oubliées.
Quelqu'un a déjà donné 40 ans dans le bâtiment, ça me paraîtrait assez légitime qu'il puisse partir à la retraite même à 58 ans. 60 ans me paraît déjà un âge poussé, 62 ans c'est extrêmement dur. Quand on se retrouve à entendre du 64 ans, ça paraît totalement délirant, quoi.
Enfin, la loi immigration à venir, mais que pensent donc les employeurs de la régularisation des sans-papiers ? Exemple, dans la restauration aujourd'hui, un de ces métiers dit sous tension.
Mais entre-temps, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui est assidu et qui travaille bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, ben je le prends tout de suite. Parce que j'en ai besoin là maintenant tout de suite. Sinon, je vais faire travailler mes salariés maison sur leurs jours de repos, en heures supplémentaires, etc.
Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Céline Pina. Bonjour Céline, merci Bonjour. D'être là. Merci à vous, Jean Messia également, Bonjour. De nous avoir rejoints, ainsi que Karim Zeribi et Amaury Bucaud. Amaury, vous allez commencer l'émission avec moi. Avant d'aborder tous ces thèmes que je viens de détailler, on va évidemment revenir à cette terrible découverte la nuit dernière dans le Gard. Les gendarmes de Salles-du-Gardon ont découvert un corps ressemblant en tout point à la description de Siem, âgé de 18 ans, disparu une semaine plus tôt après le passage aux aveux du principal suspect. Le résumé avec Karine Bouteloup pour commencer.
C'est sur les indications du meurtrier présumé que le corps de Siem a été retrouvé cette nuit dans un chemin de campagne isolé aux alentours de la Grande Combe, non loin du lieu de la disparition.
Le corps de la jeune Siem a été retrouvé cette nuit aux alentours de 1h du matin. La description correspondait en tout point à celle de Siem.
Le suspect, qui a un lien de famille éloigné avec la victime, est passé aux aveux hier soir en garde à vue.
Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité.
Âgé de 39 ans, il est déjà connu de la justice. Il a 5 condamnations à son casier judiciaire pour des faits d'atteinte aux biens, 8 en lien avec la conduite de véhicules.
Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec arme, pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012.
L'homme devait comparaître hier devant les assises pour une affaire de vol avec usage d'une arme. Après ses aveux et la découverte du corps, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Là, il s'agissait de la conférence de presse officielle de la procureure de la République de Nîmes. C'était ce matin, suivie il y a quelques heures à peine, enfin il y a eu un peu plus d'une heure même, de celle de l'avocat de la famille de la jeune fille. Écoutez.
Personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance de cette relation hypothétique. Siem n'est plus là pour l'a confirmé. Évidemment, c'est une version du mise en examen. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé.
Alors, Amaury Bucco, avant d'en venir au profil meurtrier présumé, c'est là tout le nœud, déjà le premier nœud du problème de cette enquête, c'est que lui dit qu'ils entretenaient une relation amoureuse et qu'une dispute serait à l'origine de sa mort cette nuit-là, tandis que dans son entourage, a priori, on n'avait pas connaissance de cette relation.
Oui, c'est ça, Nelly. En fait, là, on est déjà dans le deuxième temps de l'enquête, c'est-à-dire que maintenant qu'on a découvert le corps de la jeune femme, eh bien, on bascule dans le deuxième temps. Le premier temps étant, d'abord, on a recherché activement le corps de la jeune femme. Et maintenant que le mis en cause est passé aux aveux, a indiqué où se trouvait son corps, eh bien, les enquêteurs vont s'intéresser pour essayer de comprendre comment cette jeune femme, elle est morte, quel était le mobile.
Oui.
Exactement, ça c'est vraiment l'investigation profonde. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'un juge d'instruction a été mandaté sur l'affaire. C'est d'ailleurs lui qui s'est rendu cette nuit dans le chemin indiqué par le mis en cause pour retrouver le corps, qui a fait les constatations lui-même avec les gendarmes. Et donc effectivement, cet homme, le mis en cause, le principal mis en cause qui depuis a été mis en examen, est placé en détention provisoire. Il a dit deux choses, le lieu, mais il a aussi donné un début d'indication dans le contexte de la mort de la jeune femme en disant qu'effectivement, ils entretenaient une relation sentimentale et qu'ils l'auraient tuée par accident. C'est effectivement intéressant puisque l'avocat de la famille qui a donné une conférence de presse il y a quelques instants, eh bien, nous a dit l'inverse. Lui dit personne dans l'entourage de la jeune femme n'avait connaissance de cette relation. Et donc, il remet en doute, enfin, remet en cause la version des faits donnée par le mis en cause lors de son interrogatoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, sur le plan judiciaire, donc, il y a un juge d'instruction. A priori, l'affaire va être requalifiée. C'était donc enlèvement et séquestration. Ça va devenir meurtre, puisque la jeune femme a été retrouvée morte. Deuxième chose, sur les investigations, eh bien, un médecin légiste s'est rendu sur les lieux. Son rapport d'autopsie devrait être porté la semaine prochaine à la connaissance des enquêteurs. Ça va être très important. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que deux personnes qui savent ce qui s'est passé cette nuit-là. Siem, qui est décédé malheureusement, et a priori, le mis en cause. Et donc, pour remettre en question et voir vraiment s'il dit la vérité, eh bien, c'est l'autopsie qui permettra d'établir...
On verra si la version de l'étouffement tient ou s'il y a
exactement.
Eu d'autres raisons.
Il y a deux autres points sur lesquels je voudrais juste revenir rapidement. C'est qu'il y avait une deuxième personne qui avait été placée en garde à vue. Oui. On la soupçonnait de savoir où était le corps et de ne pas l'avoir dit. Cette personne, elle a finalement été relâchée et mise hors de cause. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'il y avait aussi la piste d'une rançon, d'un kidnapping. Et cette piste n'est manifestement pas privilégiée aujourd'hui par les enquêteurs.
D'accord. Revenons quand même en quelques mots et avant d'étendre le débat et la discussion avec nos autres invités, au passé judiciaire de cet homme que j'évoquais tout à l'heure. Un très lourd casier. Plusieurs condamnations, il devait être convoqué à nouveau là pour un procès. Hein.
C'est tout à fait ça. Son casier judiciaire était très loin d'être vierge. Alors 14 condamnations à son casier, c'est quand même beaucoup. 5 pour atteinte au bien, 8 pour conduite de véhicule. Alors conduite de véhicule, ça peut être par exemple conduite sans permis ou sous stupéfiant. Et puis surtout un vol avec arme. Et pour ce vol avec arme, eh bien, il avait été condamné en 2015 à 12 ans de prison, sachant qu'il avait commencé à purger cette peine dès 2012, probablement en détention provisoire. La procureure de la République a précisé néanmoins qu'il avait purgé l'ensemble de ses peines et donc qu'il devait comparaître libre devant la cour d'assises pour encore une autre affaire, encore un vol avec arme. Cette audience devant la cour d'assises devait se tenir ces derniers jours, mais comme il était en garde à vue, eh bien, cette audience n'a pas pu avoir lieu.
Merci beaucoup pour ces précisions. Karim Zeribi, de toute façon, voilà, on voit bien clairement que... On a affaire à un type qui était de toute façon peu recommandable. On est toujours un peu démunis et désemparés face à ces issues tragiques parce qu'on nourrit l'espoir. Ça fait quelques jours qu'on avait connaissance de cette disparition et on se dit toujours, voilà, il y a peut-être quelque chose de positif qui va en sortir. On en perle ses mots, quoi. On ne sait pas trop quoi dire dans ce genre de cas, hormis que peut-être, effectivement, s'il y avait relation amoureuse entre eux, elle s'en était pas confiée et que du coup, on n'a pas pu la protéger des agissements de cet individu.
Oui, c'est vrai qu'il y a, la première réaction qui est une réaction d'émotion par rapport à la mort, au crime. Donc, sur cette jeune fille de 18 ans, on pense à la famille, évidemment, on pense aux parents, on pense à ses frères et soeurs, on pense à ses proches. Donc le crime de cette nature est horrible. Et puis ensuite, c'est vrai que dans un deuxième temps, on est bien obligé de regarder un peu quel est le mobile, qui est l'auteur. Et là, les bras nous en tombent une nouvelle fois parce qu'on a un multirécidiviste. donc pas un récidiviste, un multirécidiviste, très connu défavorablement des services de police, qui n'a pas purgé la totalité de sa peine, certainement par rapport au jeu des remises de peine, donc lors de la première peine de 12 ans, puisque sinon il serait encore en prison, hein. 2012 plus 12, ça fait 2024, donc nous sommes en 2023, il était dehors. Et puis en plus, il devait se représenter à une audience donc aux assises, c'est pas rien, je veux dire, donc pendant sa garde à vue, ça veut dire qu'il y avait quand même des faits encore très graves à son encontre, mais il était dehors cette fois-ci, ce qui lui a permis effectivement de se comporter de manière criminelle comme il l'a fait. Donc on doit s'interroger et on est scandalisé effectivement par le profil de l'auteur. Après, moi je considère, et j'ai écouté l'avocat, et je pense que l'avocat viendra sur ce sujet-là, l'avocat de la famille, il est déjà sur la recherche de circonstances, pas atténuantes, mais je dirais qui ne seraient pas aggravantes. Ça veut dire crime passionnel. Quand il dit relation amoureuse, en gros il veut dire, nous avions une relation amoureuse, ça a été passionnel, donc... Et on sait très bien que...
C'est la version du suspect.
C'est la version du suspect. Donc on sent qu'il essaie là d'emblée. L'autopsie va nous le dire. Et puis, plus que ça, le travail des enquêteurs. Ils vont relever les téléphones, les SMS, quelles étaient la nature de leurs échanges. Bien sûr. On va vite savoir de quelle était la nature de leur relation. Mais l'avocat semble très circonspect, certainement par rapport au dire de la famille. Donc, ce criminel est déjà dans la recherche d'éléments pouvant expliquer ce crime qui n'est pas excusable, justifiable en l'état.
Amaury, petite précision peut-être à ce stade de la discussion.
Oui, justement, sur le lien sentimental, effectivement, il n'est pas établi pour le moment, c'est la version du mis en cause. En revanche, ce qui est établi, c'est que le mis en cause était l'ex-compagnon d'une femme qui était la cousine éloignée de Siem, et que Siem, elle gardait leurs enfants, elle était la babysitter, et donc elle les connaissait, elle les côtoyait. L'avocat a également précisé, l'avocat de la famille, a précisé que la famille de Siem n'était pas proche de cette cousine, puisque son ex-conjoint était quelqu'un de peu recommandable, qu'il avait été de multiples fois condamné, et que la famille de Siem, qui était plutôt honnête, n'avait pas envie de le fréquenter de près.
Mais avoir été nounou de ses enfants ne justifie en rien, effectivement,
exactement,
une relation.
Non, non.
Oui, parce qu'il y avait une cousine au milieu, et c'était peut-être le lien familial qui prévalait. Céline Pina, est-ce qu'on peut dire à ce stade, et pour reprendre un peu le propos de Karim, que la justice a failli à protéger cette jeune fille des agissements de cet homme ?
En tout cas, on peut s'interroger sur le fait qu'un homme aussi dangereux apparemment était dans la nature sans être contrôlé. On n'a pas eu le sentiment, en tout cas, ce n'est pas ce qu'a dit la procureure, qu'il était sous contrôle judiciaire. Peut-être est-ce un élément que l'on apprendra plus tard. Mais on peut avoir le sentiment que finalement, la justice ne se sent pas concernée par la dangerosité potentielle de quelqu'un. Là, c'était vu son pédigré, vu ses condamnations et vu sa convocation aux assises, on est assez surprise qu'il ait semblé avoir les mains aussi libres.
Oui, mais la récidive ne portait pas sur les mêmes qualificatifs. Hein.
Oui, mais la dangerosité, du personnage paraissait quand même extrêmement...
Ne serait-ce que le vol avec arme. Jean Messia, j'imagine que les bras vous en tombent et que vous allez taper dur sur la justice qui n'a pas agi là, en l'espèce, en tout cas pas dans les règles de l'art.
Mais je crois que nous sommes beaucoup dans ce cas-là, puisque vous savez que il y a une grande défiance des Français vis-à-vis de leur justice, et c'est certainement pas ce genre de profil et ce genre de énième fait divers dramatique qui va les faire changer d'avis. D'abord, le suspect nous raconte une histoire à dormir debout sur des liens prétendument amoureux, etc. Mais on est en droit de pas croire sur parole une crapule pareille. Enfin, le type a quand même un pédigré d'un grand malfrat. Et donc, on n'est pas obligé de le croire sur parole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, il a été condamné. La procureure que vous avez passée il y a un instant le disait. Il a été condamné en 2015 à 12 ans de prison. Bon, est-ce que les juges ont fréquenté l'école élémentaire, hein? Parce que 2015 plus 12 ans, ça fait 2027. On est en 2023.
Il a été libéré avant.
Donc, qu'est-ce
il était en prison en 2012.
Qu'est-ce que
voilà, il avait déjà
après il avait commencé.
D'accord. Donc, on peut être d'accord qu'en 2023, il n'aurait pas été dehors. Ouais, il n'aurait pas dû être dehors. Que fout ce type dehors? S'il était en prison, ça ne se serait pas passé comme ça. Alors moi, je veux bien qu'on dise, on peut pas extrapoler. Si, c'est comme pour toutes les affaires qu'on a eu à commenter sur ce plateau. Si les OQTF sont exécutés, ceux qui sont morts sous les coups de personnes avec des OQTF ne seraient pas mortes. Si ce type avait été en prison et que la peine à laquelle la justice l'a condamné et avait été pleinement exécutée, ce type n'aurait pas été dehors et CM serait encore vivante. La vérité est dure à dire, mais il faut la dire. Voilà. Donc moi, je trouve, si vous voulez, que c'est vraiment dramatique que, en raison de cette espèce de laxisme judiciaire, la France pleure tous les jours, des enfants. C'est, franchement, c'est une honte.
On va continuer évidemment de suivre cette enquête au plus près. Et comme vous le disiez, Karim, nul doute qu'elle rendra ses conclusions assez vite. En tout cas, les réponses qui restent en suspens pour l'instant, de par l'analyse notamment des relevés téléphoniques, on le saura bien assez vite. Je vous propose de parler des Français qui sont plutôt inquiets quant à leur sécurité. C'est ce qui ressort du dernier baromètre Odoxa fiducial pour le Figaro. 6 Français sur 10 affirment se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité. Le détail des chiffres avec Sophia Dolé.
Parmi les craintes les plus présentes dans l'esprit des Français, les risques liés à la sécurité du quotidien, comme les cambriolages et la délinquance, à 48%. Suivent les risques terroristes, à 39%, et ceux liés à des manifestations violentes, à 38%. Un sentiment d'insécurité lié au fait que la majorité des Français estiment que la présence de la police et de la gendarmerie n'est pas assez forte. Sur le territoire de manière générale, et autour de chez eux, à 54%, dans les centres-villes, à 58%, et à 83% dans les quartiers difficiles. Des Français qui doutent majoritairement de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité, notamment en matière de cambriolage ou d'agression, 70% se disent moins confiants.
Alors, ce qui est intéressant dans ces cartons qu'on vous a montrés, Karim, c'est que selon où on vit, ça se précise, dans les quartiers, les riverains estiment être les premières victimes, des délinquants notamment, parce qu'ils les voient agir au quotidien et ont failli finalement à protéger ces populations-là aussi.
C'est évident, on le dit souvent autour de la table des débats que nous avons sur CNews, l'immense majorité des habitants des quartiers sont les otages de petites mafias criminelles, donc trafiquants de drogue, qui mettent les quartiers, j'ai envie de dire, sous contrôle total. La République n'est plus présente et il y a un sentiment d'abandon de ces populations. Et ça signifie, qui plus est, qu'il n'y a pas de complicité de la population avec ces voyous. Il y a une volonté d'être protégé. Et ils ne se sentent pas égaux face au phénomène d'insécurité parce que, oui, la police, elle vient de temps en temps faire des opérations coup de poing, mais cette police visible, de proximité, en tenue, armée, qui va, qui vient, qui doit occuper le territoire et chasser les délinquants, elle n'est pas quotidienne. Elle est conjoncturelle, elle est ponctuelle. Et ses habitants le ressentent bien. Et ensuite, quand on sort des quartiers, on se rapproche des centres-villes, on le ressent moins, mais on le ressent malgré tout. Ouais. Ce sondage nous le dit.
J'ai l'impression que Jean Messia, à côté de vous, veut tempérer votre propos, notamment sur le degré d'acceptation, voire de complicité de certains.
Ça me rassure quand il tempère mon propos.
Je vous ai vu faire la moue, quoi.
C'est être d'accord avec lui.
Non, mais il faut, sans vouloir polémiquer, juste être factuel. Vous dites qu'une majorité des habitants de ces quartiers difficiles... Évidemment, sont les otages.
Une immense majorité.
Même. Vous avez dit ça, une immense majorité. Oui. Très bien. Dans ce cas-là, pourquoi, lorsque la police poursuit des malfrats à l'intérieur de ces quartiers, les quartiers ne se mobilisent pas pour aider la police, mais très souvent, les quartiers caillassent la police pour éviter les arrestations?
Les quartiers caillassent la police ou une petite centaine sur 10 000 habitants de délinquants caillassent la police? C'est là où vous ne faites pas la part des choses. Il vous manque de discernement à votre habitude. Mais ne confondez pas 100 délinquants avec 10 000 habitants d'un quartier.
Enfin, le moins qu'on puisse dire,
c'est inouï quand même.
Peut-être. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se mobilisent pas pour aider la police.
Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils se transforment en James Bond? Qu'ils sortent avec des délinquants armés?
Mais attendez.
Non, mais c'est une blague.
Mais lorsque la police tue. Lorsque la police poursuit quelqu'un en moto,
vous voulez qu'ils se mettent au milieu et qu'ils aident la police?
Attendez, laissez-moi finir.
Au péril de leur vie.
Vous allez comprendre. Quand la police poursuit quelqu'un d'un rodéo en malfrat à l'intérieur de l'ordre et que ce type se casse la figure, les quartiers savent très bien se mobiliser pour tout brûler contre la police en disant...
100 délinquants, Jean-Michel, sur 10 000 habitants. Arrêtez de dire les quartiers.
Répondez à ça.
Je réponds. 100 délinquants sur 10 000 habitants. Votre approche essentialisante, elle est à côté de la plaque.
Je vous dis que...
Je vous le dis. Le sondage vous l'atteste.
Je vous dis que les quartiers savent se mobiliser.
Non, pas les quartiers.
Lorsqu'il y a prétendument des violences policières, les habitants de ces quartiers se mobilisent pour mettre le feu partout et mettre le bordel partout. En revanche,
non, lorsque... je suis pas sûr qu'on puisse vous laisser dire ça.
Si.
Mais il dit n'importe quoi.
J'interviens, je vais pas vous laisser dire. Les habitants se mobilisent pour mettre le feu. Vous pouvez pas dire ça.
Et toi, attendez.
Il y a des habitants, des délinquants, des racailles, ce que vous voulez.
Très bien.
Mais pas les habitants.
Alors pourquoi les mêmes, dans les mêmes proportions, ne se mobilisent pas pour aider la police.
Peut-être par peur des représailles aussi.
Donc ils ont peur, ils n'ont pas peur de la police et ils ont peur, ils ont peur des délinquants.
Juste pour la simple raison que vous le dites vous-même, c'est pour reprendre votre argumentaire. Comme ils sont relâchés dans la nature et qu'ils purgent pas leur peine, ils sont de retour après dans le quartier. Donc ils peuvent aussi se venger sur ceux qui les ont prétendument lâchés ou donnés. Enfin, vous voyez, vous comprenez quand même.
Non mais d'accord, vous savez, le groupe a une force quand même.
Mais nous, on n'habite pas dans les quartiers.
Non mais le groupe. Non mais moi, je connais très bien. J'y habitais il y a très longtemps et je les ai fréquentés, donc je sais comment ça se passe. Alors, c'est pas pire. Je vous raconterai après.
Quand il y a une agression, est-ce que toute la rame se lève pour sauter sur les délinquants? Non. Est-ce que tous les habitants,
les tenants
de la rame de métro sont complices?
Non, mais c'est...
Arrêtez.
Non, assistance à personne en danger. Exactement.
Il y a un vrai souci. Non, ça n'est pas qu'une minuscule minorité. Voilà. Les choses sont plus partagées. Mais la plupart des habitants des quartiers, en fait, vivent sous une domination. Il y a un pouvoir au quotidien, qui est effectivement le pouvoir exercé par les gens les plus violents, par les caïds. Et la police, elle, vient ponctuellement. Donc les gens des quartiers, ceux qu'ils voient exercer le pouvoir, ce sont leurs voisins, ce sont ces délinquants-là, et ils n'ont pas tellement le choix. D'autre part, il n'y a pas que cette question-là, il y a aussi le fait que la délinquance fait vivre les quartiers, le trafic de drogue. Ça permet aussi à des gens qui, par ailleurs, ne vont pas vendre des barrettes, mais stockent, guettent, etc., qui sont parfois dans une misère sociale réelle.
C'est le carburant du séparatisme, permet... ça.
Oui, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que la violence qui va motiver les gens qui vivent dans ces quartiers. Ils sont aussi victimes de cette violence. Et ce qui est intéressant, c'est de les entendre réclamer plus de police.
Bien sûr.
Parce que derrière cet appel à la police, il y a une tentative d'essayer de se débarrasser de cette gangrène-là.
Attention, je précise juste mon propos. J'ai pas dit les habitants, j'ai dit les quartiers. Et effectivement, les images.
Langue est fourchée, c'est pour ça que je
dis. Non, j'ai dit les quartiers, j'ai jamais dit les habitants.
Alors, les quartiers, c'est pas les habitants des quartiers.
Non, les quartiers s'enflamment, vous le voyez à la télé.
Merci pour la chronique Éco, Éric de Rematan.
Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
Bonjour Éric de Rematan, on va parler tout à l'heure du travail des seniors. L'occasion de se poser cette question, est-ce qu'ils sont vraiment mieux payés que les autres?
Écoutez, ce serait un élément de blocage. Pourquoi y a-t-il aussi peu de seniors? C'est-à-dire seniors, c'est plus de 55 ans. Pourquoi sont-ils aussi peu nombreux en activité dans les entreprises? Alors c'est vrai que le salaire peut être un élément de blocage. Il y a une étude de l'OCDE. Vous savez, l'OCDE, ce sont les 38 pays les plus développés du monde. Et cela montre effectivement des écarts. Vous allez voir, en France, un senior gagne 17% de plus en moyenne qu'un salarié de moins de 54 ans. Vous voyez, l'Italie même est encore au-dessus, hein, 19%. Et il faut aller en Allemagne pour trouver 11%. Bon, ça reste quand même des différences importantes. Il y a, je note, le Japon, le Royaume-Uni et le Canada qui ont une vraie parité des salaires. C'est-à-dire qu'on soit âgé ou non, on a les mêmes salaires. Alors, est-ce que c'est justifié d'être mieux payé? Moi, je dirais oui, parce qu'il y a d'abord l'expérience qui pèse hein, dans ce salaire. Il y a aussi les primes d'ancienneté. Mais au final, c'est vrai que cela freine un peu les embauches. Seulement 56% hein, de taux d'employabilité actuellement pour ceux qui ont plus de 55 ans. Et ça chute même à 35% d'actifs quand ils ont plus de 60 ans. Donc ça en dit long quand même hein, sur cette capacité des entreprises à garder les plus anciens. Je termine par un point. Il va y avoir un indice, vous savez, dans la future réforme, un indice senior, comme on l'appelle. Cet indice, il concernera les entreprises de plus de 300 salariés. Alors ce ne sera pas pénalisant dans la mesure où ce sera juste un chiffre à donner. Combien avez-vous de seniors dans votre entreprise? Si le chiffre n'est pas donné, il y aura une petite pénalité d'1% de la masse salariale, mais il n'y aura pas d'amende si vous n'avez pas un nombre suffisant de seniors. Voilà, c'est une manière de changer les choses à l'avenir.
N'en dites pas trop parce qu'on va en parler tout à l'heure. Vous avez déjà un petit peu dévoilé. On était vraiment sur le niveau de salaire. Mais c'est bien, ça nous fait un petit teasing pour la suite. Vous l'aurez compris, on va parler de ces mesures, peut-être pas si coercitives que ça, pour forcer les employeurs à recruter des seniors. À tout à l'heure.
Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
De retour avec vous pour la deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour le débat juste après le journal. Michaël Dorian.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. La jeune CM retrouvée morte dans une forêt du Gard, la lycéenne de 18 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis une semaine. Le principal suspect, un homme de 39 ans, est passé aux aveux cette nuit et a conduit les enquêteurs vers le corps de la victime. Il l'aurait, selon ses dires, tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. Une version qui laisse perplexe l'avocat de la famille de CM.
Alors, cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance de cette relation hypothétique. CIEM n'est plus là pour la confirmer. Évidemment, c'est une version du mise en examen. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé.
Le journaliste et écrivain Philippe Tesson est mort. C'est le théâtre de Poche-Montparnasse qu'il dirigeait, qu'il a annoncé aujourd'hui à l'AFP. Philippe Tesson avait été le rédacteur en chef du journal Combat de 1960 à 1974, avant de fonder le Quotidien de Paris, qu'il a dirigé pendant 20 ans. Il s'est éteint hier à son domicile de Chatou, dans les Yvelines, à l'âge de 94 ans. À l'heure où le gouvernement réfléchit à une consigne pour les bouteilles plastiques, les consignes de bouteilles en verre font leur grand retour dans certaines enseignes de la grande distribution, une pratique héritée des années 1970. Reportage dans un supermarché lyonnais avec Olivier Madinier.
Dans ce magasin de produits bio, la plupart des bouteilles vendues sont consignées. Les bouteilles de vin, de jus de fruits peuvent être rendues. Le consommateur récupère alors 50 centimes. Cette cliente est conquise.
Ça me paraît une très très bonne idée, surtout que finalement, à la maison, nous n'en faisons pas grand-chose. Et mis à part les mettre dans un dépôt vert, moi je suis plutôt contente que ça retourne au producteur.
Mise en place il y a près de 2 ans dans ce magasin, l'opération est un succès auprès de la clientèle.
On a plutôt une clientèle qui est sensibilisée à l'écologie et c'était vraiment un service qu'ils attendaient de pouvoir ramener leurs bouteilles puisque... Pour eux, c'est un gâchis énorme de devoir jeter les bouteilles.
Une fois collectées, les bouteilles arrivent ici où elles sont nettoyées, puis remises dans le circuit. Une bouteille en verre ayant une durée de vie bien plus longue que l'on imagine.
Le verre est un super emballage, mais pas à usage unique. Une bouteille, elle peut tenir de nombreux cycles de vie, plusieurs dizaines. Et c'est dommage de la jeter à chaque usage, c'est absurde. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une durée de vie cohérente à l'emballage qui est la bouteille en verre.
Cette entreprise de réemploi de bouteilles s'apprête à signer un contrat avec une enseigne de la grande distribution.
La Fondation pour l'enfance alerte sur l'impact du numérique chez les enfants de moins de 6 ans. Dans ce premier baromètre, la Fondation met en garde la surexposition des plus petits aux écrans, un phénomène en augmentation, notamment dû au télétravail des parents en présence de leurs enfants. Le reportage est signé Mathilde Couvillier-Flornoy.
Mettre ses enfants devant les écrans pour les occuper pendant une journée de télétravail, c'est le choix que font certains parents. Seulement, selon un sondage IFOP, 9 médecins sur 10 établissent un lien entre les difficultés de développement chez les jeunes enfants et leur surexposition aux écrans. Parmi ces difficultés, des troubles du sommeil, de l'attention, du comportement, de l'humeur et du surpoids. Si certains parents font le choix de ne pas exposer leurs enfants aux écrans, il arrive aussi, selon cette pédiatre, qu'en télétravail, ils le fassent involontairement.
Il est préférable de ne pas mélanger travail et parentalité. Le petit enfant, qui a toujours tendance à imiter son parent, voudra aussi utiliser davantage les écrans lorsqu'il verra son père ou sa mère travailler devant son ordinateur.
Seul un parent sur deux estime que donner à manger à son enfant en regardant son téléphone peut avoir un impact négatif sur le développement. Selon le docteur Emmanuel Devouche, il existe quelques alternatives pendant le télétravail pour limiter les effets nocifs de la surexposition aux écrans.
Le bébé a besoin de la relation à l'autre. Nous encourageons les parents à vivre ensemble avec leurs enfants, des moments simples du quotidien et à partager le même temps social.
Le 19 janvier dernier, une proposition de loi sur la prévention à la surexposition des enfants aux écrans a été déposée à l'Assemblée.
Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'actualité continue bien sûr sur CNews avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup cher Mickaël et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. On a beaucoup parlé de l'emploi des seniors et des moyens de contraindre les entreprises à les embaucher. Alors pour l'instant, l'exécutif a opté, vous le savez, pour la publication d'un index des seniors de la part des employeurs. C'est pas très coercitif en soi. Beaucoup disent que c'est un choix qui est critiquable, qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. On va en parler avec Éric Drilmatin dans un instant, mais on va aussi s'intéresser à ces entreprises qui recrutent sciemment des seniors, contrairement à la tendance ambiante. C'est le cas dans cette petite entreprise parisienne où Thibaut Marcheteau s'est rendu.
Dans cette PME d'une centaine de salariés spécialisés dans les produits d'hygiène bio, 10% d'entre eux ont plus de 55 ans. Un choix assumé par les fondateurs à la recherche de collaborateurs d'expérience.
Embaucher des personnes avec de l'expérience, c'est assurer déjà de la sérénité au sein des équipes. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une connaissance métier, il y a une transmission aussi. Et il y a encore beaucoup d'envie et de dynamique. Et c'est pour ça, en fait, nous sommes extrêmement satisfaits de pouvoir faire venir en fait, ces profils qui vont nous apporter leur savoir-faire.
Il y a 4 ans, Thierry décide de quitter son entreprise et se retrouve sur le marché du travail à 52 ans.
Quand j'ai opéré ce changement d'entreprise, il y a toujours une certaine appréhension parce que le marché du travail en France est toujours à risque.
À la recherche d'un cadre expérimenté, l'entreprise fait confiance à Thierry et l'intègre au service des exports.
On est tout de suite plongé de plein pied dans le travail, on adopte le rythme de mouvement de l'entreprise et c'est quelque chose qui, en l'occurrence ici, s'est très bien déroulé.
En France, le taux d'emploi des seniors est de 56% selon les derniers relevés, 4 points en dessous de la moyenne européenne.
Éric, est-ce finalement au fond ce reportage, est-ce l'exception qui confirme la règle? Ou il y en a quand même qui se disent, voilà, on va valoriser l'expérience, on fait fi des salaires, parce que de toute façon c'est aussi une valeur ajoutée pour l'entreprise, parce que cette plus-value-là, elle nous est précieuse.
Oui, elle est précieuse. Et puis vous savez que dans le projet initial d'Emmanuel Macron, il y avait le tutorat. C'est-à-dire, on prend une personne senior, plus âgée, et à côté, on lui met un jeune, parfois en apprentissage, et il est guidé vers le futur, on lui insuffle de la motivation. Ça, c'était un très bon projet, mais qui demande du temps. Hein. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les seniors, ils ont cette image de coûter cher. Bon, on l'a vu dans les écarts de prix tout à l'heure, hein, c'est à peu près 17% de plus qu'un jeune en France. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Canada, au Japon pour voir la parité. Maintenant, si vous voulez, je pense que plus on va reculer l'âge légal de la retraite, donc là, le projet c'est 64 ans, plus vous aurez de seniors dans les entreprises. Ça, c'était très bien vu dans le passage de 60 à 62 ans. Donc c'est mécanique. Donc les seniors, oui, de toute façon, resteront plus longtemps, qu'ils le veuillent ou non. Et je termine, s'ils restent plus longtemps aussi dans les entreprises, c'est aussi pour une question de salaire. Parce que s'ils partent avant, qu'ils n'ont pas leur trimestre et qu'ils retournent avec des pensions trop faibles, là, ils seront vraiment perdants.
Jean Messier n'est pas convaincu de l'opportunité d'embaucher les seniors parce qu'on va reculer l'âge de la retraite.
Non, c'est pas de ça dont je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que si on recule l'âge de départ à la retraite, eh bien, ça va provoquer un surge dans l'emploi des seniors.
C'est exactement ce que je viens de dire.
Oui,
c'est
ça.
Bon, peu importe, je sais pas ce que j'ai compris,
mais peu importe. Mais
de la contradiction.
Je crois que l'emploi, de manière générale, que ce soit d'ailleurs des jeunes comme des seniors, comme de l'ensemble de la population active, dépend de quelque chose qui s'appelle la croissance. Évidemment que quand vous avez une faible croissance, ceux qui en pâtissent les premiers en termes d'emploi, ce sont ceux qui sont au début de la chaîne, c'est-à-dire les jeunes, et ceux qui sont en fin de la chaîne, c'est-à-dire les seniors. Mais le problème, si vous voulez, c'est que si, tant qu'on ne provoque pas un supplément de croissance, tant que nous n'avons pas une vraie politique industrielle pour réindustrialiser, pour relocaliser, pour recréer à nouveau des richesses en France et donc pour accroître l'emploi, parce que l'enchaînement économique est le suivant, et ce n'est pas Éric de Rietmatten qui va me contredire, la croissance crée de l'emploi qui fait baisser le chômage. C'est mécanique. Oui. Donc au début de la chaîne, c'est la croissance. Or, aujourd'hui, notre croissance est anémique. Et ce n'est pas après 2 ans de croissance négative que ça va s'arranger. Aujourd'hui, on s'en remet à peu près, mais ce n'est pas suffisant pour enclencher. Maintenant, si vous voulez, la réforme, cette réforme, moi, je crois qu'il faut s'en tenir à la réforme Touraine. Parce que c'était 43 ans, c'était un départ à la retraite à 62 ans, c'est amplement suffisant. Alors évidemment, la réforme Touraine prévoyait une entrée en vigueur en 2035, ce qui est un peu tard. Mais la ramener de 7 ans à 2028 est un peu raide. Oui. Donc il faut effectivement, un juste milieu pour appliquer cette réforme rapidement, de telle façon à ce que nous puissions financer notre système de retraite sans pénaliser ceux qui partent en retraite par trop, parce que cette réforme-là est extrêmement punitive.
Extrêmement punitif. En un mot, puisqu'il parle de croissance, quelles sont les prévisions de croissance pour 2023, a priori, là, on table sur quoi?
Là, pour l'instant, on est quand même dans une situation plutôt faible. Autant 2022 a été meilleur que prévu,
2023, l'Europe va sûrement souffrir.
Parce qu'il y avait une reprise post-Covid, mais c'était un peu
voilà.
Un peu
donc, ce qu'il faut voir, alors si vous voulez, maintenant, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites, parce qu'il y a quand même 1 million d'emplois disponibles chez Pôle emploi qui ne trouvent pas preneur. Et vous savez bien que le projet immigration prévoit justement de faire venir de la main-d'œuvre légalisée, parce que beaucoup de gens refusent des emplois. Donc là, il y a un souci. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec les quinquas enfin, ou les seniors, mais il y a quand même un vrai problème d'emploi.
Juste,
si je peux répondre en une demi-phrase, le problème, si vous voulez, c'est que les métiers en tension, ça fait déjà des années qu'ils existent. On a accueilli des millions d'émigrants. Ça n'a jamais pourvu les métiers en tension. Et vous savez ensuite que vous avez un chômage frictionnel, c'est-à-dire un chômage qui est là, même en plein emploi. Le plein emploi, ce n'est pas zéro. Le plein emploi, c'est 2-3%. Oui, bon, 2-3% de la population active, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait au moins entre 500 000 et 1 million d'emplois.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, c'est pas...
Céline Pina, revenons aux mesures du gouvernement, dont on a dit ils ont été petits bras, il faut y aller, il faut tordre le bras justement des entreprises, des employeurs. Est-ce que là, il y a quelque chose à faire quand même pour rendre les choses un peu plus coercitives?
Oui, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts, et c'est compliqué de le faire en tordant le bras d'une entreprise. Quand on regarde, par exemple, un pays qui a fait une réforme très intéressante, qui n'a pas fait simplement une réforme des retraites, elle a fait une réforme du travail tout au long de la vie, c'est le Danemark. Mais le Danemark, il s'est donné des années de discussion pour que justement, en fait, cette réforme, elle soit acceptée par toute sa population. Et l'idée, c'était de répondre à la fois aux difficultés d'entrée des jeunes sur le marché du travail et au fait qu'on expulsait un petit peu trop tôt les personnes expérimentées. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce dont vous parliez, autrement dit des logiques de tuilage. Et dans le tuilage, il n'y avait pas simplement une transmission de compétences techniques, il y avait aussi une transmission de savoir-être. Et aujourd'hui, l'avantage des seniors, c'est aussi un savoir-être, une façon d'être posé, d'accepter les règles du jeu, qui parfois peut être extrêmement utile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont accepté aussi que la rémunération puisse être en courbe de Gauss, c'est-à-dire elle monte et puis à partir d'un certain moment, quand la productivité baisse un petit peu, eh ben vous acceptez des baisses de salaire, mais en échange aussi d'allègements. Vous terminez un petit peu plus tôt. Et ils ont fait une vraie réforme qui était une réforme sociale et sociétale et pas une réforme purement comptable, oui. Même si de fait, elle répondait aussi à des difficultés comptables.
Et puis, il y a peut-être plus de flexibilité donc, chez ces gens-là.
Ils ont 6 millions d'habitants, hein, donc
ouais.
C'est déjà
un peu plus facile aussi d'en discuter. Karim, et puis la productivité, parce qu'on parle souvent des nouvelles générations qui posent les conditions dès l'embauche en disant « moi, je ne veux pas travailler ». Plus de temps d'heure, je veux avoir mon temps libre, je veux pouvoir partir plus tôt parce que je veux ma vie à côté. Bon, c'est une tendance lourde hein, de notre société de toute façon. Ces seniors, enfin les 45 ans et plus, ils ont été biberonnés au fait qu'il fallait rester au travail plus longtemps et être un peu plus productif. C'est peut-être un bon retour sur investissement pour l'entreprise aussi.
Moi, je suis quand même assez effaré qu'à partir de 45 ans, on soit considéré comme un senior en entreprise. C'est une réalité.
À qui dites-vous
c'est un effarement qui doit tous nous interpeller. Moi, je crois que ça fait partie des écueils de la culture française en matière de ressources humaines. Je veux dire, on a quelques écueils comme ça. Les écueils, c'est quand vous êtes jeune, que vous sortez de l'école, vous n'avez pas d'expérience, donc compliqué pour vous embaucher. Quand vous avez 45 ans, vous commencez à être senior, donc compliqué pour vous garder. Donc, quand vous êtes autodidacte, vous n'avez pas de diplôme. Ah, c'est le diplôme qui fait que je vous embauche ou pas.
Donc, il faut avoir 30 ans ou rien, quoi.
30 ans et diplômé. Chez les anglo-saxons, on est beaucoup plus souple. Moi, je pense qu'on devrait effectivement regarder la qualité intrinsèque des gens, leur engagement, leur envie, leur motivation. Et vous avez des gens qui sont à 60 ans, beaucoup plus motivés que d'autres qui ont 35 ans et qui sont censés être au cœur, je dirais, de leur dynamique professionnelle. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir des réflexes structurels négatifs sur des franges de la population. Et pour ce qui est du gouvernement et de cette mesure, moi, je pense qu'il y a une mesure qui est simple. Est-ce qu'on préfère avoir un senior actif dans une entreprise sans percevoir les charges ou est-ce qu'on préfère en faire un chômeur? Moi, je préférerais qu'on ait un système très attractif d'allègement de charges pour un senior qui gagne plus en matière de salaire. Donc, si vous gagnez plus, les charges sont plus importantes. Donc, on pourrait faire un effort pour baisser les charges et rendre attractif l'emploi d'un senior pour une entreprise. Je préfère aller voir au boulot, à transmettre aux jeunes générations un savoir-faire, une sérénité, une connaissance de la culture d'entreprise, plutôt que d'aller voir chômeurs désabusés en burn-out.
Jean Messia.
Non, mais je pense que la mondialisation néolibérale a arasé d'une certaine façon la notion verticale du travail. C'est-à-dire qu'autrefois, les seniors, c'était la mémoire de l'entreprise. C'était aussi ceux qui étaient là pour effectivement accompagner les jeunes qui arrivaient, pour leur transmettre un savoir-faire, pour leur transmettre un savoir, pour leur transmettre la mémoire des dossiers, des techniques, etc. Tout ça a été finalement aplati, si vous voulez, par une approche plutôt mercantile du travail. Donc quand on entend valeur travail, autrefois la valeur c'était presque au sens philosophique, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de qualitatif, il y avait un sens, un épanouissement, oui, etc. Aujourd'hui la valeur du travail c'est simplement une version quantitative, une version de marché. Aujourd'hui le travailleur et notamment les seniors bien sûr, ce n'est qu'un coût dans une entreprise. Quand on parle de cost killer, les premiers costs qu'on kill, si je puis dire, ce sont les salaires. Ce sont les salaires qu'on élimine. Or, les salaires les plus élevés, c'est évidemment ceux qui ont passé le plus de temps dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on les licencie en premier. Donc c'est une logique qui est totalement mercantile, totalement quantitative, qui ne tient pas compte de la création de richesse, qui ne tient pas compte de la valeur du travail au sens philosophique du terme. Et c'est aussi pour ça que nous avons tant de personnes dans la rue aujourd'hui, oui, par défiance vis-à-vis d'un travail qu'ils ne considèrent plus comme utile et qui, en plus, ne les fait pas vivre comme ils les faisaient vivre naguère.
On va parler d'un autre angle mort de la réforme des retraites, c'est la pénibilité des métiers. Et on va en parler avec un acteur de terrain, de premier plan, qui nous rejoint par Skype. C'est Michel Chanu, gérant de la société Claude Giraud. Bonjour, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes gérant d'une société de construction qui est établie dans le Jura, le Doubs, l'Ain, vous faites de la charpente, de la couverture. Racontez-nous un petit peu pourquoi, à votre sens, cette réforme ne tient pas compte de la difficulté qu'ont vos employés à exercer ce métier jour après jour, année après année.
Bonjour. Je pense que les salariés du bâtiment qui commencent jeunes sont usés de leurs efforts à partir, on va dire, de 50 ans. Et ça se retrouve à la fois dans les arrêts de travail, à la fois dans les maladies professionnelles. On voit qu'on est usé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à travailler, et c'est même dangereux. D'un côté, la médecine du travail nous demande de nous ménager, de faire attention, etc. Et de l'autre côté, elle nous pousserait encore à travailler plus, et là, c'est guère possible.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Chanu, quel est le quotidien d'un de vos employés? On voit à l'image, là, des couvreurs en train de travailler sur des toitures, mais vraiment concrètement, parce qu'on se fait une idée de ce métier qu'on ne connaît pas du tout, hein, faut le dire. Enfin, moi, je ne connais pas la réalité de votre quotidien et de celui de vos employés. À quelle heure on se lève? Combien de temps on passe sur une toiture? Par tous les temps, j'imagine?
Voilà, c'est par tous les temps. Ce matin, mes salariés là, sont partis, ils faisaient 0 degré. Ils ne vont pas passer les 3 degrés. Vu que ça n'a pas dépassé les 3 degrés sur le chantier aujourd'hui. Ils vont travailler, ils ont du déplacement, ils ont des risques. Alors, on a des risques de travailler en hauteur, il faut faire continuellement attention, continuellement. C'est un travail à la fois intellectuel et physique. Donc, on ne peut pas physiquement tenir toujours sur une durée plus longue.
Il y a beaucoup d'accidents, de chutes associées à ce métier?
Non, les accidents du travail ont diminué ces derniers temps. Il faut dire que, bon, ça fait déjà un moment qu'on fait tout pour que ça diminue. Ils ont augmenté par rapport... c'est surtout les maladies professionnelles qui ont augmenté à partir de l'âge des 50 ans. Mmh. Et c'est énorme. Donc, travailler jusqu'à 64 ans pour quelqu'un du bâtiment, je ne pense pas que ce soit bien possible.
On a une question d'un de nos invités pour vous, là.
C'est un petit peu comme si vous prenez un footballeur professionnel. On n'en voit pas à 64 ans. C'est bizarre. Alors que vous pouvez dire qu'il va apporter de l'expérience, il va apporter quelque chose. Mais en productivité, il ne sera pas très bon.
Karim Zadig, oui, non, Michel Chanu, deux questions rapides. D'abord, est-ce que vous comprenez donc le mouvement de colère de ceux qui exercent les métiers que vous évoquez et qui sont dans la rue en disant non, on ne peut pas faire 2 ans de plus, aller jusqu'à 64 ans parce qu'on est déjà cassé? Et est-ce qu'il est facile de renouveler votre personnel avec des jeunes sur le marché du travail qui seraient compétents et qui auraient envie de faire ces métiers difficiles?
Oui, il faut encourager les jeunes, justement, encourager les jeunes à nous rejoindre. Il y a des jeunes qui ont plein de bonne volonté et qui s'intéressent à ces métiers. On a les centres de formation pour, on a les compagnons du devoir, on a les centres de formation régionaux, on a tout pour faire. Il faut simplement encourager les jeunes à travailler. Et ça, c'est au niveau, on va dire, même général. Mmh. Tous ces métiers qui recherchent du personnel, il faut encourager les jeunes à travailler. Mmh.
Est-ce que vous embauchez aussi, parce qu'on va parler tout à l'heure au-delà de la pénibilité, on va aussi parler de la loi immigration sur les métiers dits en tension, ça en fait partie, hein, ce que vous faites comme activité. Est-ce que vous êtes pour la régularisation des personnes sans papier qui exercent? Peut-être que vous avez déjà ce cas de figure chez vous.
Voilà, on a déjà ce cas de figure à l'entreprise avec deux Kosovars qui nous rendent pleine satisfaction. Mais je ne pense pas qu'il faille encourager vraiment cette solution. On ferait beaucoup mieux d'encourager les gens, on va dire déjà chez nous, à travailler et pas continuer comme on le fait. Là, c'est un peu... On a beaucoup de cas où les gens préfèrent rester chez eux plutôt que de travailler.
D'accord.
Parce que c'est vrai qu'avec nos petits salaires, on va dire, les petites rémunérations, vaut mieux rester à la maison en ce moment.
Merci beaucoup, Michel Chanu, en tout cas pour votre témoignage. On est très heureux que vous ayez accepté de nous parler un peu de la réalité de votre quotidien et de vos préoccupations pour la suite de votre métier. On voit que ce n'est pas gagné. Éric, ça vaut peut-être le coup aussi d'élargir la discussion à tous ces métiers dits pénibles et effectivement qui seront logés à la même enseigne que les autres maintenant. Oui. Ça comporte quoi?
C'est prévu hein, dans la loi. Future loi, Elisabeth Borne l'a annoncé. Alors vous savez qu'en fait, les critères de pénibilité, en grande partie, ont été supprimés en 2017 parce qu'ils étaient trop compliqués à mesurer. Donc, dans les nouvelles réformes, il y aurait des facteurs de pénibilité qui seraient donc pris en compte. Alors, c'est en fait des facteurs, les poids, les charges, les difficultés toute la journée, la nuit aussi, le travail de nuit. Mais ça, une fois qu'on a dit ça... Vous avez aussi le temps passé la nuit, combien d'heures et de nuits par semaine, quel poids vous transportez. Vous voyez, on ajoute un certain nombre de critères à ces premiers facteurs de pénibilité et donc ça renforce la difficulté de compréhension. Et c'est pour ça, quand monsieur dit à couvrant, on ne travaillera pas jusqu'à 64 ans, quand on regarde vraiment la loi, il y aura quand même des arrangements pour que les personnes partent plus tôt. On ne peut pas imaginer qu'un couvreur reste jusqu'à 64 ans. S'il a commencé à 16 ans, par exemple, il aura gagné des trimestres et il pourra partir. Oui. La loi le dit, hein, j'invente rien, mais Jean-Michel, il gagnera des années. Peut-être 6 ans même.
Le problème, c'est que pour certains de ces critères, c'est évidemment subjectif. C'est-à-dire que pour certains, c'est évident, pour d'autres, c'est subjectif.
C'est d'ailleurs le propos d'Eric de Ritmaten le montre amplement. C'est il y aura, ils pourront, mais tout ça n'est pas inscrit dans le marbre. Tout ça n'est pas clair. Il y a effectivement une marge de subjectivité. Et vous savez, la subjectivité en matière économique et en matière budgétaire, elle joue rarement en faveur des salariés, en faveur des bénéficiaires. C'est si les Français se méfient tant, y compris sur ce point de la réforme des retraites, ils ont peut-être un peu raison parce que chat échaudé. Voilà, ça c'est la chose. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de parler de
cette loi immigration. Oui, on va en parler dans la dernière partie de l'émission, je vous rassure. Mais je voulais juste en profiter parce que je sais que dans ce secteur, ce monsieur qui recrute est confronté à ça. Je voulais juste avoir son sentiment le temps qu'il était avec nous en direct. Céline Pina, sur la pénibilité, il y a des choses à revoir parce que la subjectivité précisément ne va pas dans le sens de ceux pour qui il y a un bénéfice du doute, on va dire.
Oui, c'est toujours très compliqué de faire reconnaître. Regardez, parfois en matière de handicap ou de lésions liées justement à l'exercice d'un métier difficile, comme il est difficile de faire reconnaître suffisamment, entre guillemets, de points de handicap pour que ça permette aux gens d'arrêter ou de prendre en charge en fait leurs difficultés. Donc les Français sont instruits de ce qui se passe réellement et il y a un vrai problème de confiance dans la parole politique à tous les niveaux et évidemment sur la question de la retraite, ça devient crucial. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une peur aussi qu'ont les Français aujourd'hui du vieillissement lié justement à ce sentiment qu'ils sont mis hors de la société.
Merci beaucoup. On s'interrompt à nouveau. Merci Eric d'être repassé chez nous. Et on revient pour parler de l'IVG. Ah, le Sénat a voté en faveur de l'inscription dans la Constitution, non pas du droit de la femme à recourir à l'IVG, mais de la liberté de la femme. Alors évidemment, à gauche, on n'est pas très content, mais néanmoins, ça reste une petite avancée sur le plan institutionnel. On va le voir tout à l'heure. 16h passé de 31 minutes, il est temps de rejoindre Adrien Spiteri pour un nouveau rappel de l'actualité. Bonjour Adrien.
La Russie célèbre ce jeudi les 80 ans de la victoire de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine se déplace à Volgograd pour participer aux célébrations. Le président russe n'hésite pas à dresser un parallèle entre la résistance contre l'Allemagne nazie et l'offensive en Ukraine. La famille de Siem passe au courant d'une relation amoureuse avec le principal suspect. L'avocat de la famille, Mourad Batik, s'est exprimé en conférence de presse cet après-midi. Le corps de la jeune fille a été retrouvé dans une forêt du Gard. Le principal suspect est passé aux aveux. L'homme de 39 ans évoque une dispute amoureuse le 25 janvier dernier. Et puis coup dur pour le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera absent contre le Bayern Munich le 14 février prochain pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'attaquant français s'est blessé hier contre Montpellier, il souffre d'une liaison à la cuisse gauche. Son indisponibilité est estimée à 3 semaines minimum.
Quelle misère, c'est pas bon, je vous ai entendu dire Karim Zeribi.
C'est pas bon pour le PSG, je peux vous le dire, que le fer de lance du PSG, de l'équipe de France, hein, donc soit blessé contre le Bayern Munich, qui est quand même un ogre du monde du football européen, c'est pas bon du tout.
Ouais, c'est ça va pas être pour cette année.
Messi et Neymar ont intérêt d'être au sommet.
Ouais, bon, si on pouvait éviter de parler de Messi quelques temps.
Là, il joue ensemble.
J'ai toujours un peu mauvaise, moi, vous savez. Allez, revenons à l'actualité qu'on avait préparée pour vous. On a vu que le Sénat, à majorité de droite, on le rappelle, avait voté en faveur de l'inscription dans la Constitution de la, je précise le terme, liberté de la femme de recourir à l'IVG. Cette formulation abandonne donc la notion de droit que souhaitait voir apparaître la gauche. Cette mesure est passée par 166 voix contre 152 qui étaient contre. Donc vous voyez, c'était relativement serré. Céline Pina, est-ce que c'est malgré tout une victoire pour la gauche, sachant que, eh bien, il y aura peut-être encore une adoption définitive par le Parlement avant un référendum, bien évidemment.
En fait, pour être tout à fait exact, je crois que j'en ai ras-le-bol des victoires symboliques. Moi, maintenant, j'aime bien que les victoires, on les ait sur le terrain. Or, aujourd'hui, quel est le principal problème? C'est l'accès à l'IVG. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'hôpitaux qui ne le pratiquent pas, de plus en plus de médecins qui refusent de le faire, que l'extension du délai de 12 à 14 semaines, qui a été fait sans discussion réelle avec les médecins, a créé un embouteillage parce que c'est pas la même chose d'avorter à 12 que d'avorter à 14 semaines. Et quand les médecins l'ont dit, personne n'a voulu les écouter. Et que moi, je préférerais que toute personne qui veuille se faire avorter ait un accès rapide et facile à des médecins ou à des cliniques qui acceptent de le faire, plutôt que la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, avant de discuter d'inscrire quoi que ce soit dans la Constitution, faisons en sorte que les droits puissent être réellement exercés. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Jean Messia, peu importe la formulation, c'est le terrain et la réalité de ces femmes et de leurs choix qui priment aujourd'hui.
Bah écoutez, moi, évidemment, je suis totalement en faveur du droit à l'avortement. Il n'y a plus personne ou quasiment plus personne en France, je pense, qui lutte contre ce principe. En tout cas, il y a ceux qui luttent très largement minoritaires. Et je ne vois pas ce que ce droit vient faire dans la Constitution. Alors, on nous explique par ailleurs que l'interruption volontaire de grossesse est un traumatisme, ce qui est vrai. C'est d'abord un traumatisme. Mais pourquoi vouloir inscrire un traumatisme dans la Constitution ? Enfin, je veux dire, c'est une liberté dans l'âme et conscience de chaque personne, de chaque femme en l'occurrence, que de le pratiquer. Et la Constitution, c'est pas, si vous voulez, un catalogue de la redoute dans lequel on met tous les droits possibles et imaginables. Je crois que jusqu'à présent, l'état actuel du droit, pour une fois, était satisfaisant. Le droit à l'avortement était reconnu. Très peu de personnes, en réalité, en discutent le principe. Alors, je veux bien que ça soit une importation de ce qui se passe aux États-Unis, encore que le cas américain, il est beaucoup plus compliqué que la manière dont on fait lecture de ce cas en France. Donc, restons chez nous, n'allons pas trop regarder ailleurs et n'ayons pas le vertige des grandeurs et le vertige d'une certaine peur qui peut souffler d'outre-Atlantique. En France, personne qui veut avorter ne se voit interdit d'avorter. Je veux dire, et c'est pas demain la veille qu'une juridiction ou un tribunal ou même l'État va l'interdire. Donc ça sert à rien de légiférer contre des craintes fantasmagoriques.
Karim Zeribi, fallait-il un garde-fou supplémentaire ou vous le rejoignez en disant c'était inutile, aujourd'hui plus personne ne remet ça en doute?
J'avoue que je ne suis pas un spécialiste pour me prononcer sur le sujet, autant effectivement.
Mais en gros, y a-t-il danger que ce soit un jour remis en question ou pas? C'est ça la question.
Je n'ai pas le sentiment que dans notre société, on puisse rencontrer ce danger-là. Mais l'IVG, c'est un droit qui a été accordé aux femmes et il faut le renforcer autant que possible. Mais parallèlement, il faut aussi peut-être l'encadrer. Donc renforcer et encadrer. Je pense que ça ne s'oppose pas. Parce que l'IVG, ce n'est pas non plus un moyen de contraception. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant aussi. Mais oui, il faut en tout cas renforcer le fait que les femmes puissent avoir accès à l'IVG lorsqu'elles le désirent. Et il y a certaines situations où c'est impératif. Donc oui, il faut certainement le renforcer et s'assurer que ça ne pourra pas être remis en question. Si ça va dans ce sens-là et on trouve une majorité, force est de constater qu'il y a quand même un équilibre dans les voix, que vous avez cité, Nelly. 152 contre, quand même.
Oui, c'était pas écrasant.
Ça veut dire que c'est pas écrasant. Hein. Il y a quand même un vrai sujet de société.
En tout cas, ça a donné lieu à des débats très animés. On va juste écouter Stéphane Ravier, le sénateur Stéphane Ravier, qui a provoqué finalement avec son... Enfin, qui a été interrompu et ça a donné lieu à une suspension de séance. Et puis je vous fais réagir, Céline.
La constitutionnalisation du droit à l'IVG est inutile et dangereuse. Elle est inutile car il n'y a pas de sujet chez nous en France. Le droit à l'IVG n'est pas menacé. Alors pourquoi cette proposition? Pourquoi cette obsession de la gauche? La principale raison, la frustration. La frustration politique. La loi de dépénalisation de 1975.
Tout de suite, donnez-moi la parole tout de suite. La séance est suspendue. Huissier, évacuez la tribune. Évacuez la tribune.
Ce sont toujours des thèmes très explosifs quand même dans nos sociétés.
Oui, mais après, c'est tout à fait normal que le président réagisse comme ça parce qu'il y a des règles. Or, à l'Assemblée nationale, quand vous faites la loi, vous ne devez subir aucune pression. Vous devez être libre. Les représentants du peuple doivent être libres de voter. Si vous avez des manifestations en tribune, c'est ce qui se passait d'ailleurs à l'époque de la Révolution pour forcer la main des députés. Ont blindé les tribunes. Donc là, il fait respecter la loi, il évacue des militants qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas à se tenir comme cela. Quant à ce que dit monsieur, c'est assez juste, dire qu'en théorie, une constitution, elle parle de l'organisation des pouvoirs et des grands principes qui vont structurer les lois que l'on prendra derrière. Effectivement, on n'est pas censé rentrer dans le détail. Il se trouve qu'aujourd'hui, y compris les députés, parfois ne savent pas réellement distinguer le domaine de la Constitution, le domaine de la loi, du domaine réglementaire. Donc on arrive à ces absurdités-là. Et la réalité, c'est de dire oui, on a une gauche qui pour l'instant n'a pas grand-chose à dire en matière économique ni en matière sociale, qui se crispe sur les enjeux sociétals. Et rien de mieux que de faire semblant de monter en mayonnaise un problème qui n'existe pas pour faire croire aux gens qu'on l'a résolu. Simplement, c'est de la politique à la gribouille et ça n'a aucun intérêt.
Le Sénat est tenu par Gérard Larcher avec une majorité de droite. Donc je veux bien qu'on focalise sur la gauche, mais quand même, je veux dire, la majorité est à droite. Si c'est passé, c'est qu'il y a des gens de droite qui ont voté favorable.
On va s'interrompre une nouvelle fois.
Parce que la droite comme la gauche sont d'accord avec l'IVG. C'est ce que je disais, on n'a pas de problème de fond.
Là, c'est pour ça que c'est passé très très juste, en fait. On va s'interrompre à nouveau et puis on reviendra à Jean pour parler, tiens, du projet de loi immigration. On y vient, ce sera la dernière
partie de
notre émission.
Qu'est-ce qu'il attend impatiemment depuis le début?
Voilà, à tout de suite.
Le gouvernement aussi, manifestement.
De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre émission. Nous allons parler du projet de loi immigration. Parce que ça y est, il est connu, il a été présenté cette semaine en Conseil des ministres. Et il prévoit notamment de délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an aux étrangers qui travaillent dans un secteur dit en tension. Certains employeurs attendaient cette mesure, notamment dans le milieu de la restauration, dont on sait qu'ils peinent à recruter aujourd'hui. Notre équipe a d'ailleurs rencontré un de ces opérateurs de la restauration. Il a du mal à régulariser deux de ses employés sans papier. Pour lui, évidemment, c'est plutôt bienvenu. Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner.
Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs.
Merci beaucoup, c'était très bon.
Stéphane Malchaud est le responsable de cette brasserie parisienne. Sous ses ordres, près de 50 employés, dont certains sont en attente de régularisation. C'est le cas d'Amadou. En 2018, il s'est présenté ici pour un poste de blanchisseur avec les papiers d'identité d'un autre.
Le papier d'un ami, mais ce n'est pas gratuit. À la fin du mois, lui aussi, il prend.
vous l'avez payé ?
Bah oui. Hein.
Vous payez combien pour ça ?
Bah, ça c'est entre nous, hein. Je ne peux pas dire ça.
Son patron, Stéphane Malchaud, affirme qu'il a entamé les procédures de régularisation pour son employé dès qu'il a eu connaissance de sa situation. Pour ce maître restaurateur, la main-d'œuvre étrangère est une nécessité dans son secteur d'activité.
C'est souvent après qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne identité, mais entre-temps, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui est assidu et qui travaille bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, bah je le prends tout de suite, parce que j'en ai besoin là maintenant tout de suite. Sinon, je vais faire travailler mes salariés maison sur leurs jours de repos, en heures supplémentaires, etc.
Si le projet de loi du gouvernement est adopté, Amadou et son collègue Ibrahima pourront obtenir un titre de séjour valide pendant un an.
Ça, c'est pour l'illustration. Maintenant, si on en vient au débat et au plan politique, écoutez ce qu'en disait Sébastien Chenu, député RN.
Il faut se donner les moyens de rendre les métiers qui sont en tension plus attractifs, mieux payés, avec des gens qui soient formés. Donc formons des gens à ces métiers-là. Vous savez, il y avait l'exemple des éboueurs. Pendant des années, on disait les Français ne veulent pas ramasser les poubelles. 70% étaient d'origine, les éboueurs étaient étrangers ou d'origine étrangère. Mmh. Aujourd'hui, c'est un métier qui a évolué. 70% sont des Français parce que c'est un métier mieux rémunéré, qui reste difficile, mieux formé. Et 70% des éboueurs sont en réalité des Français. Donc par conséquent, quand on travaille sur l'attractivité, sur la formation, mais aussi sur des dispositifs de logement dans les grandes villes, permettre aux petits fonctionnaires, aux petits travailleurs de pouvoir se loger dans les grandes villes, on résout ce problème.
Karim Zeribi, on ne s'attaque pas au cœur du problème, c'est-à-dire rendre ces métiers mieux payés, plus attractifs pour ceux qui sont en mesure de
l'exercer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là, parce que d'abord, les métiers de la restauration ont été revalorisés ces dernières années. C'est vrai qu'il n'était pas très attractif en termes de salaire. Mais au-delà des salaires, il y a, je dirais, une amplitude horaire qui est complexe et qui est repoussante pour les jeunes générations aujourd'hui. Donc ce sont des métiers difficiles. Quand vous êtes cuistot, vous voyez quasiment jamais le jour. Donc vous n'arrêtez pas. Et quand vous êtes serveur et que vous faites le midi et le soir le service, vous n'avez que quelques heures de coupure. Vous commencez tôt, vous finissez tard. Donc il y a aussi des contraintes liées au métier en lui-même au-delà du salaire. Et il faut que le recours connaître. Pareil dans les métiers du BTP, un marteau-piqueur dans une tranchée, pas très attractif pour un jeune Français qui a peut-être des ambitions, qui aspire à autre chose, qu'il ait fait des études ou pas. Et de tout temps, ne faisons pas comme si on découvrait que l'immigration occupe des postes et des fonctions que nous autres Français ne voulons pas faire aujourd'hui. Et jadis, c'était nos aînés et nos aïeux. Il y a eu les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Maghrébins, les Africains subsahariens. C'est un état de fait et c'est pas lié simplement à la France en particulier. Alors après, qu'on rende ces métiers plus attractifs, qu'on ne soit pas dans l'exploitation humaine, dans l'esclavagisme, évidemment, je vais pas vous dire le contraire, mais ces métiers, on pourra jamais les revaloriser à un point pour qu'ils soient suffisamment attractifs pour notre jeunesse. Donc je pense que c'est plutôt bien que des gens sans papier, qui travaillaient parfois au black, qui travaillaient et qui occupaient des postes, puissent le faire de manière reconnue, cotiser, participer à la création de richesses et de solidarité de notre pays. Je crois que c'est bien. Par contre, c'est l'autre jambe de ce projet qui va, à mon avis, être en panne. La capacité qu'on va se donner à expulser ce que l'on veut expulser. Là, à mon avis, le compte n'y sera pas.
Oui. Jean Messia, il y a un terme qu'on entend beaucoup chez les détracteurs dont vous êtes, c'est appel d'air. C'est-à-dire que si on ouvre la boîte de Pandore, ça va faire venir des candidats supplémentaires parce que de facto, ça va créer une offre et une demande aussi.
C'est-à-dire que c'est une prime à l'illégalité. C'est comme si, je ne sais pas, vous avez conduit votre voiture sans permis de conduire pendant des années et qu'un jour, on vous dit, comme ça fait des années que vous conduisez sans permis, le permis, on va vous le donner. C'est quand même incroyable comme logique. Donc il est là, l'appel d'air. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons un taux de chômage des étrangers extra-européens qui est près du triple du taux de chômage national. Et ce taux monte même jusqu'à 40% dans certains quartiers, dans certaines zones à majorité immigrée.
Donc c'est une illusion, c'est une illusion.
C'est pas ça, c'est que si effectivement ces métiers sont en tension, pourquoi les étrangers qui sont déjà sur notre sol, et en particulier les étrangers extra-européens qui sont massivement au chômage, pourquoi ils ne les prennent pas ? Ça veut bien dire que les étrangers qui sont sur notre sol ne veulent pas non plus des métiers dont les Français ne veulent pas. Donc et dernière chose, mais quelle est cette logique au nom de laquelle, et c'est une certaine gauche la soutient, c'est ça qui moi me révulse, au nom de laquelle on va tirer profit de l'illégalité de certaines personnes pour les exploiter, leur imposer des salaires de misère, leur imposer des conditions de travail inacceptables au motif que les Français n'en veulent pas. Donc les Français, c'est normal qu'ils n'en veuillent pas, mais par contre, mais par contre, le pauvre immigré qui lui n'a aucun droit, on trouve ça tout à fait normal qu'il fasse ses boulots. C'est quand même
Vous trouvez ça insultant en fait pour eux?
C'est tout à fait insultant. Et d'ailleurs, moi je dis, alors si effectivement on a des étrangers qui sont sur notre territoire, enfin qui sont pas sur notre territoire et qu'on fait venir sur des travaux spécifiques, des niches spécifiques, il y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, les étrangers qui ont des cartes de résident, qui sont sur notre sol depuis trop longtemps, au chômage, qui ne participent pas à l'effort productif parce qu'ils vivent des aides sociales, etc., ben, il faut les renvoyer. On ne peut pas faire venir sans renvoyer. Vous comprenez? Et dernière chose que je veux dire, c'est que cette logique est pernicieuse parce qu'elle considère finalement que l'être humain, ce n'est qu'un consommateur ou un producteur. Or, derrière les immigrés qu'on va faire venir, les étrangers, on a déjà des problèmes liés aux différences culturelles, linguistiques, religieuses, aux difficultés incommensurables de s'assimiler, de s'intégrer. On veut encore augmenter ces problèmes-là? On a un malaise identitaire déjà. L'être humain n'est pas simplement un agent économique. L'être humain est une culture, une civilisation, une identité. Et nous, ici, on est en France. Et finalement, on ne devient pas français simplement parce qu'on a un travail.
Est-ce que cette loi, Céline Pina, va assainir le problème ou au contraire l'aggraver?
Je pense surtout que, comme d'habitude, c'est la énième loi de communication. D'abord, la première chose, c'est que vous n'avez absolument pas besoin d'une loi pour régulariser des gens. Si vous voulez régulariser des personnes sur les secteurs en tension, la réglementation suffit. Donc, si on met en avant cette question-là, c'est parce que, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, on est dans le « et en même temps ». Donc, si je prends une posture qui est une posture de fermeté vis-à-vis de l'immigration, il faut que je donne des gages à la partie gauche de mes soutiens en leur disant « oui, oui, mais regardez, en échange, on va régulariser ». Le seul résultat, c'est que les Français n'y comprennent rien et qu'ils ont l'impression qu'effectivement, les problèmes complexes que peuvent poser aujourd'hui certains étrangers en matière d'intégration ou d'assimilation ne sont pas du tout pris en compte. D'ailleurs, on le voit, la loi est censée avoir trois piliers et le pilier intégration, on n'en discute absolument pas parce qu'en fait, il n'y a rien de très concret autour de tout.
Jean, dernier point, parce qu'il l'a soulevé tout à l'heure, Karim, l'autre jambe, comme on dit, l'autre volet de la loi, c'est la reconduite aux frontières. Vous y croyez pas? Vous en croyez pas un mot?
Bah, je n'y crois pas du tout pour une raison simple, c'est que quelles sont dans le projet de loi les réformes qui portent sur les causes de la non-exécution des OQTF? Le projet de loi ne s'attaque pas au pourquoi on n'arrive pas à expulser des gens. Or, on n'arrive pas à expulser des gens parce que nous avons un cadre juridique, notamment la CEDH, etc., qui nous empêche d'expulser les gens. Alors le gouvernement, je ne doute absolument pas que le gouvernement va procéder à un accroissement de l'expulsion des délinquants et des criminels qui sont sous OQTF, c'est bien la moindre des choses, mais en contrepartie, eh bien, il va non seulement laisser tranquilles les OQTF qui ne sont ni délinquants ni criminels, mais il va nous faire avaler encore plus d'arrivées d'étrangers. C'est ça le deal avec les pays d'origine.
Allez, c'est la fin de cette émission déjà. Merci beaucoup d'être venus tous les trois sur ce plateau cet après-midi. Dans un instant, Laurence Ferrari, le début de Punchline. Quant à moi, je vous retrouve demain à 15h30 sur ce même plateau. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur notre antenne.